Et si on profitait du choc de la crise sanitaire du coronavirus pour changer notre façon de penser les systèmes de santé ? Aujourd'hui, pour podcast.s, je vous propose d'approfondir le thème de la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques. C'est un thème qu'on avait rapidement abordé à la fin de notre dernier épisode, celui sur la crise de l'hôpital public. Alors oui, c'était déjà il y a un mois, mais rappelez-vous, c'est là que le docteur Hakim Becher, qui est chef du service d'hépato-gastro-entérologie à l'hôpital Bichat de Paris, et qui nous avait aidé à préparer l'épisode, et malheureusement on n'avait pas pu vous diffuser son interview, bah en fait il en faisait un des principaux axes sur lequel faire évoluer le système de santé français. Et on a eu envie d'en savoir plus. Alors pour ce faire, je vous propose d'écouter Alexandre Berkès. Alexandre, c'est avant tout un ami dont j'apprécie la rigueur intellectuelle et le regard de citoyen éclairé et curieux, mais il se trouve qu'il a aussi été chef de projet de la réforme du programme de médecine de l'Université de Montréal. En fait, à l'époque, il participait au développement d'un mouvement social d'émancipation par le soin qui s'appelle le partenariat patient et qui vise à mettre en place une méthodologie pour mieux prendre en compte l'expérience des patients atteints de maladies chroniques pour réformer l'écosystème de santé du Québec. Aujourd'hui, je vais aussi innover dans le format de l'épisode que vous allez entendre. Je ne vais pas juste vous donner l'entretien brut qu'on a enregistré tous les deux, mais je vais en parler avec vous. Je me suis dit que ce serait plus facile et plus agréable à écouter. Pour être complètement transparent, c'est Xavier Delaporte qui m'a donné l'idée d'essayer ce format avec son podcast « Le Code a changé » que vous pouvez écouter en ce moment sur France Inter. Si le format vous intéresse, dites-le nous et on essaiera d'en faire plus. Maintenant que le décor est planté, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti!
J'essaye de ne pas gémir, mais de comprendre, comme dirait l'autre.
Ça, c'est la doxa dominante.
Alors, il se pose tout de suite une question. Est-ce que c'est de la culture ?
The British people have voted to leave the European Union, and their will must be respected.
Oserais-je vous dire que je ne m'occupe pas de politique ? Je m'occupe d'histoire.
Vous m'enseignez le retour, et moi, je vous enseigne d'avancer.
Voilà. Et
à nous deux, on va faire
à
la
nous
culture.
Deux, nous faisons la Renaissance.
Exactement.
Qui c'est qui a un avis sur ce qu'il faudra faire? Bon, une autre question?
Alors, pourquoi parler de la prise en charge des maladies chroniques? Bah, je sais pas si vous vous rappelez, mais à la fin du confinement, les médecins interviewés parlaient beaucoup du risque de dommages collatéraux de la crise qu'étaient les patients qui ne s'étaient pas fait soigner pendant la surcharge hospitalière due au Covid et dont la santé se détériorait et qui allaient certainement, à leur tour, nécessiter une prise en charge d'urgence. Et en fait, on parlait là des patients atteints de maladies chroniques. Alors je ne sais pas si cette seconde vague a eu lieu, mais il semble qu'avec le vieillissement de la population et la capacité de soigner de nombreuses autres maladies, le traitement de ces maladies chroniques, c'est-à-dire des maladies qu'on ne sait pas soigner et avec lesquelles les patients doivent apprendre à vivre, représente une part très importante de l'activité des soignants. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose sans tarder d'aller rencontrer Alexandre. Bonjour Alexandre, comment ça va ?
Salut Alexandre, très bien, merci.
Alors Alexandre, est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter en quelques mots ?
Ah oui, donc Alexandre Berkès, donc je suis français d'origine, mais j'ai passé environ, enfin plus de 10 ans au Québec. Et je suis de retour en France depuis l'été dernier avec trois petits franco-québécois avec moi. Je vais aujourd'hui partir vraiment de mon expérience à la fois du Québec, mais aussi de ce que j'ai pu voir depuis un an environ, sur des projets de même nature, c'est-à-dire la participation des patients expérimentés, mais aussi de leurs aidants, on verra, à la co-construction du système de santé. Et de ce fait-là, je vais souvent mobiliser trois grilles d'analyse assez différentes qui traduisent un petit peu ma formation. C'est à la fois les sciences dures, je suis formé à la physique, j'ai fait du management aussi, j'ai été formé mais avec un angle très sciences humaines et sociales, anthropologie et sociologie, et enfin philosophie, avec Spinoza et l'école de Francfort, c'est-à-dire toute l'école allemande qui travaille l'aliénation et l'émancipation.
Voilà, donc vous avez compris, Alex, c'est ce qu'on appelle une tronche. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a choisi de mettre le croisement de toutes les compétences qu'il vient de nous citer au service du développement du partenariat patient. Alors on va déjà commencer par lui demander, qu'est-ce que c'est exactement le partenariat patient ?
En gros, ça part vraiment de la reconnaissance de deux postulats principaux. Le premier, c'est de dire, en gros, les professionnels de la santé ne sont pas les seuls qui posent des actes de soins. Les patients, en fait, et leurs proches sont des acteurs de soins à part entière. On a tendance à considérer que le système de santé, c'est uniquement les hôpitaux, les professionnels avec des blues. Et que de ce fait-là, on ne se rend pas compte que dans la majorité des cas, c'est-à-dire la majorité des cas étant des patients atteints de maladies chroniques, ou ayant des pathologies qui ont un impact sur leur vie à long terme, en fait, au quotidien, doivent prendre des décisions, développent des savoirs et développent des compétences qui leur permettent de prendre soin d'eux ou de prendre soin de leurs proches. Et de ce fait-là, par exemple, je peux citer une des premières chercheuses qui a travaillé sur le sujet, qui s'appelle Christine Carman, et qui, aux États-Unis, a montré que dans le cas des patients, par exemple, atteints de la maladie d'Alzheimer, leurs proches passaient environ 5700 à 6300 heures à s'occuper de leurs proches, alors que les professionnels de santé, en moyenne par année, c'était 25 heures. Donc, c'est parti un peu de ce genre de constat en se disant, mais qu'est-ce qu'on fait de ces savoirs et de ces compétences et de ces expériences significatives qu'ont ces personnes-là et qu'on ne mobilise pas pour générer de l'innovation dans le milieu de la santé, et même si ce n'est pas de l'innovation, au moins de l'ajustement, de l'amélioration continue.
Les professionnels de santé ne sont pas les seuls à poser des actes de soins. Ça a l'air très simple de le dire comme ça, et on le comprend tous, parce qu'en effet, quand on va chez le médecin et que le médecin nous donne un traitement, si on ne le prend pas ce traitement, eh bien il ne se passera rien concrètement. Et c'est bien nous qui le posons cet acte de soin de prendre ce traitement-là. Mais dire ça et le poser comme un postulat pour refonder un écosystème de santé, je trouve que ça va complètement à l'encontre de toute la hiérarchie qu'on a en tête quand on pense à la médecine aujourd'hui. Et c'est d'autant plus contre-intuitif quand on nous explique la gravité et donc la technicité des maladies qui sont en question pour construire le partenariat patient.
Il y a certaines maladies qui prédisposent aux compétences qu'on a besoin pour co-construire le milieu de la santé. Donc, par exemple, on a beaucoup des patients hémophiles, donc des gens qui, très tôt, dans les années 60-70, ont commencé à développer des relations de collaboration assez proches avec les professionnels, du fait que c'était une maladie rare, qu'on savait c'était des maladies pour lesquelles on avait peu de réponses. Et que de ce fait-là, souvent, il y a eu des relations de collaboration assez proches entre les patients et les professionnels de santé. Et quand il y a eu l'affaire du sang contaminé dans les années 80, c'est un des milieux qui a le plus souffert du paternalisme qui était caractéristique de cette affaire-là, qui était d'avoir pris des décisions à leur encontre. C'est-à-dire, beaucoup de patients hémophiles ont été contaminés par le VIH, du fait qu'ils reçoivent des transfusions sanguines assez importantes pour ne pas avoir d'hémorragie. Donc, un hémophile, c'est quelqu'un qui a un trouble de la coagulation et il a besoin de s'injecter des produits sanguins au quotidien assez régulièrement pour éviter la possibilité d'avoir des hémorragies au moindre coût, au moins d'accidents vasculaires. Et que de ce fait-là, ces patients-là sont un des milieux les plus propices et qui a généré une grande partie des leaders du partenariat patient parce qu'ils ont eu ce choc-là d'être avec des professionnels avec qui, pendant 10 ans, ils avaient une relation de partenariat de soins en quotidien. Et là, il y a eu un moment de trahison. Ils l'ont vécu comme ça, un moment où ils ne s'attendaient pas à ce qu'on prenne des décisions pour eux au lieu de avec eux, alors que c'était comme ça que ça s'était passé pendant longtemps. Et donc, de ce fait-là, on va avoir les gens de l'hémophilie, des gens qui ont le VIH, des gens avec la santé, qui ont des enjeux de santé mentale aussi, qui vivent dans cette situation-là, et qui, pendant des années, vont accumuler des expériences de marginalisation, de difficultés au travail, et qui vont donc devoir mettre en place des stratégies pour être capables de survivre socialement à travers ça. Et les deux ou trois autres plus importantes, et là, c'est les plus classiques, ça va être souvent les diabétiques et les insuffisants rénaux, c'est-à-dire les personnes qui vont faire des dialyses et qui vont donc, de ce fait-là, avoir une expérience de soins extrêmement significative. Ça peut être plusieurs fois par semaine que certains de ces patients-là vont faire une dialyse. Et les diabétiques, c'est une gestion quotidienne de leur maladie.
Voilà, donc on parle de maladies qui sont lourdes, dont les traitements sont techniques, et on va essayer d'aller chercher l'expérience des patients. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on cherche à faire ça? Si d'un côté, on a des médecins qui sont formés pendant une dizaine d'années au moins pour être spécialistes de leur sujet, si on a fait en sorte qu'ils soient formés dans des centres d'excellence universitaire scientifique, comme on l'a vu dans notre dernier épisode sur l'hôpital public, pourquoi est-ce qu'on a besoin de patients qui n'ont pas ces études-là, qui n'ont pas ce recul scientifique pour avoir des traitements qui soient efficaces? Et après tout, si je décide de ne pas suivre le traitement qui m'a été prescrit et que ma maladie n'évolue pas positivement, bah c'est ma faute finalement, non?
Ce qu'on se rend compte, c'est que dans les soins, il y a, pour les maladies chroniques, entre 55 et 75% d'inobservance au traitement. C'est-à-dire que dans un médecin qui verrait 100 patients dans la journée, on va dire 10, pour que ce soit plus réaliste, il y a entre 5 et 7 patients qui vont sortir de son cabinet qui ne vont pas prendre le traitement qui a été décidé. Et dont l'état de santé va donc ne pas s'améliorer, voire se dégrader, et qui vont donc revenir en première ligne, c'est-à-dire revenir voir le médecin généraliste ou aux urgences, moins de 6 mois après. Donc là, la question, c'est toujours de se demander, Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on a juste des mauvais patients qui, par défaut, sont critiques et ne font pas confiance aux médecins? Nous, le pari qu'on a pris, c'est de considérer que c'est parce que ça ne fait pas sens pour le patient, parce que sa réalité n'a pas été prise en compte, parce qu'on n'est pas parti de son projet de vie à lui. Et que de ce fait-là, l'objectif, ce n'est pas de venir. Il y a un sachant qui nous dit ce qu'on a et puis il nous donne une prescription et puis on va la suivre à la lettre. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est que les patients ont besoin d'exprimer leurs réels besoins. Puis des fois, ils arrivent avec un besoin, ils disent « moi, c'est mon besoin, c'est X », mais on les convainc que leur besoin, c'est Y, et on leur fait une prescription pour Y, sauf qu'en fait, ce qu'ils voulaient, c'est X. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent, et puis en général, ils ne vont même pas à la pharmacie, ou ils vont à la pharmacie prendre les médicaments, mais ils ne les prennent pas, ou ils les prennent juste un ou deux jours, alors qu'il faudrait les prendre 3 semaines. De ce fait-là, on se rend compte qu'il n'y a pas de partenariat qui se passe dans les soins à ce moment-là. Les gens, de manière générale, les personnes, quand on leur impose des règles à laquelle ils n'ont pas participé, c'est-à-dire dans lesquelles ils n'ont pas considéré, ils n'ont pas introduit ou partager à quel point ça répondait à leurs propres intérêts, ne vont pas forcément avoir un rapport de suivi, ne vont pas forcément être convaincus de la nécessité ou de l'intérêt pour eux de suivre ces règles-là. Et donc, soit on a deux stratégies. Soit on essaye de forcer les patients, et c'est ce qu'on peut voir actuellement, ce qui peut arriver dans certains cas. Il y a des assurances qui mettent en place des systèmes où un patient qui ne respecterait pas la prescription qui a été donnée par le médecin aurait un remboursement progressivement moindre s'ils ne respectent pas leur traitement. C'est-à-dire de dire, cette fois-ci, voici la prescription et si tu ne la suis pas et qu'il y a des enjeux de santé, la prochaine fois, on te remboursera moins. Donc là, c'est vraiment le côté de taper sur les doigts si tu n'as pas bien agi. Et nous, le postulat qu'on a pris, c'est de considérer que ce sont des êtres intelligents et qu'il n'y a personne qui volontairement essaye de nuire à sa santé. Et que donc, c'est que quelque part, il ne sent pas que ça le concerne ou il ne sent pas que ça va l'aider à s'améliorer. Donc, c'est de se dire comment on peut faire en sorte, dans les soins notamment, pour que ça soit pris en compte et que de ce fait-là, on n'ait pas des taux d'inobservance au traitement qui soient si énormes et que ça nous coûte collectivement autant d'argent.
D'accord. Donc, on est aussi en train de se dire que de façon très pragmatique, si un patient atteint de maladie chronique ne suit pas son traitement correctement, c'est l'ensemble du système de santé auquel il appartient qui est affecté. Mais alors, comment est-ce que ça marche exactement ?
Une fois qu'on part des postulats qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire, un, les patients et les proches sont des acteurs de soins en part entière, et deux, les savoirs et les compétences qu'ils développent au sein de leur expérience de vie avec la maladie sont pertinents à la fois médicalement pour prendre des meilleures décisions médicales, mais aussi stratégiquement, c'est-à-dire pour garantir une meilleure amélioration de la santé à l'intérieur de ça. Une fois qu'on part de ce postulat-là, ce que ça implique, c'est qu'il faut donc qu'on organise les soins de manière à pouvoir capitaliser là-dessus. C'est-à-dire les soins, de la manière dont ils sont organisés actuellement dans le système de santé formel, sont organisés à partir de postulats qui ne sont pas ceux-là. On a une vision sous-jacente, implicite, d'un patient relativement passif à qui on va offrir des services et on va essayer de comprendre ses besoins pour le servir au mieux, mais on va travailler pour lui plutôt qu'avec lui. Donc à Montréal, c'est parti en 2010 avec un patient justement hémophile, victime de l'affaire du sang contaminé dans les années 80 en France et qui ensuite s'est expatrié au Canada, qui s'appelle Vincent Dumaise, et qui en fait a proposé à l'Université de Montréal, à la faculté de médecine en plus particulièrement, de repenser la manière dont on pourrait penser la formation initiale et continue des professionnels de la santé en tenant compte de ces postulats-là. Et c'est à travers ce projet-là qu'on a essayé de voir comment, à travers la formation initiale des médecins en particulier au début, puis après ça s'est élargi à tous les professionnels de santé, comment on pouvait les sensibiliser, les former à être capable de reconnaître ces savoirs expérientiels des patients et comment les mobiliser pour faire leur job de médecin le mieux possible. Et donc, de ce fait-là, ce n'était pas un combat idéologique qui avait juste pour objectif de favoriser ou augmenter la place des patients à l'intérieur de ça. C'est de considérer même qu'un médecin compétent est un médecin qui mobilise de manière complémentaire avec ses savoirs biomédicaux des savoirs de la vie avec la maladie. Et donc, en gros, aujourd'hui, pour faire le portrait 10 ans après, on a 300 patients qui aujourd'hui enseignent la médecine à l'Université de Montréal. On a environ 200-250 patients qui sont dans le système de santé et qui participent à des comités d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, qui sont sur des conseils de surveillance des hôpitaux, qui sont dans les cellules éthiques, qui permettent de prendre des décisions quand il n'y a pas de règles claires sur, par exemple, le changement de genre, sur des soins de fin de vie, sur l'aide médicale à mourir, etc. Et qu'en gros, aujourd'hui, on a à la fois des patients au Québec qui sont plusieurs centaines, qui sont recrutés et formés pour être capables de mobiliser ces savoirs-là au service de l'amélioration du système de santé dans son organisation des soins comme dans ses soins.
Bon, on n'en est manifestement pas encore là pour la France. Mais il y a une autre chose qui est intéressante avec le partenariat patient. Au fond, on l'a vu tout à l'heure, on parle aussi d'optimisation. C'est aussi une façon très pragmatique d'améliorer le système de santé. Or, Alexandre, Il a fait des études de management également. Donc, on va aborder là avec lui une notion qu'on a vue dans notre épisode sur l'hôpital public, c'est celui de l'optimisation, celui de l'utilisation de techniques de management et notamment le lean management. Le lean management, c'est un petit peu la chasse au gâchis. C'est ce qui fait qu'on va rendre le processus le plus efficace possible, qu'on ne va pas perdre de temps et d'énergie sur des tâches qui ne sont pas critiques pour le résultat final qu'on va rechercher. Et ce qui va être intéressant ici, c'est de voir comment Alexandre et les équipes du partenariat patient ont réussi à utiliser ces techniques de lean management, mais en ayant des résultats complètement différents que la façon comptable et gestionnaire qui a été utilisée en France et qui a donné toutes les externalités négatives qu'on a décrites dans notre dernier épisode.
En gros, lean management, effectivement, la volonté, c'est de faire de l'optimisation, c'est-à-dire d'allouer le mieux possible les ressources. Et il y a tout un débat entre la gauche et la droite là-dessus, on le connaît, mais en gros, l'état d'esprit peut être utilisé à bon ou à mauvais escient. Cela dépend justement, la méthodologie en tant que telle n'est pas si problématique, elle n'est pas intrinsèquement. L'enjeu, c'est justement les acteurs qu'on met autour de la table. Si on met autour de la table uniquement des gestionnaires, ou si on met autour de la table uniquement des patients, ou si on met autour de la table uniquement des cliniciens, on aura forcément des solutions qui ne correspondent pas aux besoins et à la réalité de ces trois publics cibles-là. De ce fait-là, ce qui s'est passé au Québec, c'est qu'en gros, il y a eu un financement du ministère de la Santé qui a eu pour but de dire implantons, expérimentons le déploiement d'une culture de lean management dans 2 ou 3 établissements au Québec, puis voyons ce que ça donne, et puis on verra de ce fait-là si on le passe à une autre échelle. Et ce qui s'est passé à l'époque, c'est que ceux qui ont remporté l'appel d'offres, c'était une boîte de conseil plutôt classique, et qui a utilisé la méthodologie vraiment de lean management classique, mais plutôt old school, vraiment la mode industriel classique et qui n'a pas adapté aux particularités du milieu de la santé, qui s'est donc retrouvé pareil une fois avec des, j'en connaissais plusieurs là-dedans, des gens qui sont absolument pas bien, qui sont pas malveillants justement, et qui se retrouvent juste à avoir autour de la table des personnes qui ne représentent qu'une partie de cette réalité-là. Donc si vous mettez en place des ateliers Kaizen, par exemple, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des ateliers de 5 jours où on va cartographier un processus de soins, essayer de voir comment on peut l'améliorer, etc., mais que c'est 5 jours de 8 heures consécutifs, vous doutez qu'il n'y aura aucun clinicien autour de la table. Parce qu'une infirmière, un chirurgien, un pédiatre ne pourront jamais consacrer 5 jours par semaine, 8 heures par jour. Les seuls qui peuvent le faire, ça va être des gestionnaires qui vont y consacrer. Et pareil pour les patients. Des patients chroniques expérimentés ne seront pas capables de participer ou prendre des vacances juste pour faire 5 jours de lean management dans un établissement. Donc, ce qui s'est passé à l'époque, c'est ça a été beaucoup dans les journaux, c'est ressorti, ça a été un scandale. On en arrivait à chronométrer des infirmières pour savoir combien de temps elles mettaient pour faire un bandage, alors qu'on sait qu'un bandage, quand on le fait auprès d'une personne âgée, ce n'est pas uniquement faire un bandage, mais c'est prendre le temps de discuter, de parler d'autres choses, d'identifier d'autres risques psychosociaux. Bref, ce n'est pas juste faire un bandage. De ce fait-là, ce qu'on a appris de cette expérience-là, c'est de dire on peut déployer cette méthodologie, cet état d'esprit de l'amélioration continue, avec un public plus diversifié qui permettra de trouver des solutions qui correspondent plus aux besoins de chacun. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La deuxième vague, nous, on a participé à la deuxième vague de Lean, où là, ça a concerné 18 établissements de santé au Québec. Et le pari qu'on a fait, c'est de dire, si on met les cliniciens autour de la table, et si on met les patients autour de la table, et qu'on fait une méthodologie qui leur permet leur participation, on aura des solutions qui correspondent davantage aux besoins de tout le monde.
Donc, on voit bien qu'il existe un modèle alternatif pour faire de l'optimisation des processus de l'hôpital, tout en maintenant les cliniciens et les patients dans les processus de décision. Et quand on parle de décision, on ne parle pas uniquement de la façon dont sont faits les soins, mais on parle aussi des politiques publiques. On parle aussi des choix qui peuvent avoir un impact sur un grand nombre de patients. D'ailleurs, il me semble que la crise sanitaire qu'on vient de traverser avec le coronavirus illustre parfaitement bien ce paternalisme quand il s'agit de prendre des décisions importantes sur notre santé. On entendra encore certainement longtemps parler des mensonges qui ont entouré l'importance ou pas d'avoir des masques, qui étaient avant tout motivés par une absence de masques et une incapacité à donner des masques à tout le monde. Alors comment est-ce que l'approche du partenariat patient aurait pu nous permettre de faire autrement ?
La première chose, c'est qu'il existe déjà en France un système de démocratie en santé, de démocratie sanitaire. C'est-à-dire qu'il y a déjà des instances, il y a des conseils régionaux santé et autonomie, il y a France Asso Santé qui regroupe une grande partie des associations de patients et qui sont des interlocuteurs privilégiés et qu'on a justement, on a tout mis en place institutionnellement pour avoir des gens avec qui discuter, des gens qui connaissent ces réalités-là et qui être en dialogue pour travailler ensemble. Et il existe des représentants d'usagers du système de santé dans chacun des établissements de santé, il existe des représentants des familles dans chacune des EHPAD en France. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en période de crise, La majorité des équipes professionnelles, du fait de l'incertitude, de l'inquiétude associée, etc., se sont recroquevillées sur eux-mêmes et ont commencé à travailler uniquement avec ceux qu'ils avaient confiance, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui n'allaient pas remettre en question, remettre en doute les décisions qu'ils prenaient. Et ils avaient peur, il y en a beaucoup, c'était par bienveillance, ils disaient « mais est-ce qu'on prend la bonne décision ou pas ?» Et donc, on prend juste un postulat simple qui est de dire « il faut mettre autour de la table des personnes expérimentées autour de ces questions et qui sont capables d'être constructifs et pas dans la défense de droit. » Et en France, dans le cas de la crise, imaginez le nombre de personnes qu'on a en France qui, un, ont de l'expérience de l'isolement social. Il y a de nombreux patients dont les pathologies leur ont demandé, ont exigé d'eux, qui à un moment sortirent de la vie sociale pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans pour des traitements interférons, par exemple, pour l'hépatite C. Et que de ce fait-là, on a plein de gens qui ont cette expérience-là. Comment on ajuste sa vie quand on a un isolement qui se prolonge? Comment on gère sa santé mentale dans ces cas-là? On a plein de patients qui ont eu des systèmes immunitaires déprimés, enfin, ce qu'on appelle immunodéprimés, donc faibles et donc propices aux maladies infectieuses, et qui ont donc dû ajuster leur vie et leurs gestes au quotidien pour ne pas être infectés. Ou un autre exemple, des patients qui ont déjà vu des crises de production de certains médicaments et qui ont dû gérer ces situations où leur approvisionnement en termes de médicaments vitaux était remis en question. Donc, comment ça se fait que dans ce moment-là où personne n'avait de réponse, on n'a pas justement demandé à ceux qui en avaient, ou encore on n'a pas travaillé avec ceux qui en avaient depuis des années, de venir collaborer avec nous? Et c'est ça qu'on a essayé de mettre en lumière.
C'est vrai, le fait de mettre sa vie sociale entre parenthèses pendant 2 mois, le confinement qu'on a tous vécu, ça a été un choc pour beaucoup, mais pas pour tout le monde. Il y a déjà des gens qui avaient vécu la même chose et qui avaient une expérience qui aurait pu être intéressante pour nous dans notre façon de gérer la crise. Toutefois, je m'étonne un petit peu qu'Alexandre ne valorise pas le fait que, dans le conseil scientifique qui a beaucoup été montré et qui est censé avoir guidé la plupart des choix politiques autour de la gestion de la crise de coronavirus, on a un sociologue, Daniel Benamouzig, on a une anthropologue, Laetitia Atlani-Douo, qui était censée apporter un regard un petit peu différent que des virologues, des infectiologues, qui sont des professionnels de la médecine. Alors, est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui va dans le bon sens ?
Justement, il y a eu beaucoup de professionnels qui ont été mobilisés, mais rarement déjà des cliniciens. Il y avait peu de cliniciens. Et la deuxième chose, c'est qu'il y avait surtout pas de patients. C'est-à-dire qu'on n'a pas été chercher là-dedans des gens qui avaient une expérience. Et à la limite, imaginons qu'on est dans une époque où on n'est pas encore rendu là. On n'est pas encore capable d'inviter des patients expérimentés autour de cette table. Au moins, on met en place les méthodologies qui permettent, parce que ça existe depuis 4-5 ans en France, ça se développe vraiment à grande ampleur. La haute autorité en santé en fait une pratique obligatoire aujourd'hui, c'est l'expérience patient. C'est-à-dire comment on peut aller capter et capturer l'expérience patient, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ont vécu les patients qui ont géré l'évolution du Covid tout seul à domicile, c'est-à-dire avec juste une ligne téléphonique pour appeler 2-3 fois par jour au cas où ça part en vrille. Comment s'est passée l'expérience des patients qui ont été hospitalisés, qui ont été aux soins intensifs ou pas, et qui aujourd'hui sont dans un état qui fait en sorte qu'ils sont stabilisés, ils vont bien et qu'ils sont capables de revenir sur cette expérience et nous aider à dire comment on aurait pu faire autrement. C'est la base du management, c'est la base de l'amélioration continue qui est de dire pas à pas, on expérimente, et forcément on a expérimenté pendant cette période-là, c'est bien correct, mais de se dire c'est correct d'avoir expérimenté, mais par contre il faut apprendre de cette expérimentation. Donc il faut le faire avec les gens qui le vivent, autant les professionnels que les patients.
Bon, définitivement, on a tout fait de travers et on aurait pu beaucoup mieux faire. Mais alors ça pose une autre question, parce que là on est en train de parler de politique publique, de politique publique nationale. Or, en France, on n'est pas dans n'importe quel contexte politique. L'année dernière, on a eu les Gilets jaunes qui nous ont bien démontré que ce n'est pas parce que le suffrage universel permet d'élire le président que la politique menée par le président va recevoir l'assentiment du peuple qu'il a élu pendant 5 ans. Juste avant le confinement du coronavirus, on a assisté à des grèves d'ampleur autour notamment de la réforme des retraites. Mais pas seulement, les professionnels de santé étaient déjà en train de tirer la sonnette d'alarme. Par ailleurs, le score de la France insoumise aux élections présidentielles de 2017, avec notamment la proposition d'une 6ème République, illustre bien une certaine défiance envers les institutions démocratiques. Dans ce contexte-là, est-ce qu'on peut vraiment mettre en place une méthodologie comme le partenariat patient, dans le système de santé ou dans n'importe quel autre champ d'activité? Dit autrement, est-ce qu'il y a des prérequis politiques ou sociaux qui sont nécessaires pour qu'une société puisse mettre en place ce type de projet?
En fait, il y a vraiment trois facteurs principaux qui favorisent le déploiement de ces pratiques-là, cette culture et ces pratiques de partenariat. C'est à la fois si on a une culture qui valorise l'autonomie des gens et le respect de leurs droits individuels. C'est plus souvent des sociétés libérales, libertaires, on va se retrouver, au sens philosophique du terme. Et que de ce fait-là, comme le but du partenariat, c'est de dire chaque soin doit être le moment, l'espace de diminuer la dépendance du patient ou de son proche au système de santé et aux professionnels de santé et au savoir des professionnels de santé. Donc, on ne vient pas juste guérir une maladie. En fait, c'est un moment d'éducation populaire. Le soin, l'acte thérapeutique a pour objectif, en même temps, de développer les compétences de soins et d'autonomie dans les soins du patient et de son proche. Moi, acteur de ma santé, je vais identifier dans l'écosystème de la santé quelles sont les personnes avec quelles compétences qui peuvent m'aider à réaliser mon projet de vie et à améliorer ma santé au degré qui me paraît être le plus propice au type de vie que j'ai. Parce qu'il y en a qui vont dire, bah, je préfère ne pas avoir de chimiothérapie intensive, mais une plus légère, puis prendre plus de risques pour ça, mais parce que je suis un pratiquant d'ultra-trail et j'ai une compétition importante et je préfère, dans ma gestion des risques, dans mon rapport au risque, y aller avec un traitement qui a moins de chances de réussir, mais qui me permet de maintenir mon projet de vie. Et ça, c'est des choix relativement individuels, mais ils ne peuvent s'affirmer que dans des sociétés qui valorisent cette expression de la volonté individuelle. Le deuxième, c'est, je l'ai vu dans deux types de pays, soit des pays qui ont beaucoup de ressources, par exemple en Suisse, on a beaucoup accompagné des établissements en Suisse où le problème de l'argent était moins présent dans les établissements et où de ce fait-là, on pouvait innover plus facilement, on avait des fonds d'innovation et on a pu essayer le déploiement de ces pratiques. Et le deuxième cas inverse, c'est je l'ai vu aussi dans des pays où il y a très très peu de ressources, où en fait, on n'a juste pas le choix de développer de l'autonomie dans le soin parce que le système de santé formel est relativement défaillant et dans lequel on peut avoir choper plus de maladies que ce qu'on va en guérir. Donc, dans les deux cas, j'ai vu que c'était quand même des contextes assez favorables. Et le dernier, c'est vraiment un espèce de moment dans le temps chronologique où les anciennes pratiques de soins commencent un peu à perdre en légitimité et en pertinence. On commence beaucoup à les critiquer. Il y a des discours qui se forment de manière plus en plus claire, explicite, sur ce qui ne va pas dans l'ancienne manière ou dans la manière actuelle de soigner. Et donc, c'est le moment où beaucoup essaient de proposer des nouveaux aux discours, des nouvelles pratiques de soins. Et puis, il y en a certaines qui font écho. Il y en a beaucoup qui ont dit qu'Emmanuel Macron, le lien est bizarre, mais c'est la rencontre d'un homme et d'un destin dans la manière dont on le voyait, en disant bah, il a essayé, il a eu l'audace, comme beaucoup, en fait, comme peut-être 30, 50, 60 personnes, sauf qu'à un moment, lui, il est tombé au bon endroit au bon moment. Et le fait d'avoir fait cet élan, d'avoir fait cet effort-là, s'être engagé de cette manière-là, est arrivé en même temps avec un contexte favorable et son élection est arrivée. Et il n'aurait pas pu le prévoir ou le planifier en amont, parce qu'il y a beaucoup de ces événements-là qu'on sait qui n'étaient pas prévus, qu'on ne pouvait pas prévoir et que beaucoup n'ont pas prévu. Bah, c'est la même chose avec Vincent Dumez au Québec. Il y a d'autres patients aussi compétents, aussi expérimentés que lui qui existent, mais sa trajectoire de vie, l'évolution des pratiques de soins au Québec et les critiques des pratiques habituelles ont fait en sorte que ça a convergé à un moment avec sa présence et la rencontre de certains individus, dont le doyen de la faculté de médecine. Et ça ne se prévoit pas à l'avance. Donc, il y a des effets culturels, il y a des facteurs objectifs. Et puis, des fois, il y a aussi le phénomène de destruction créatrice, un petit peu chez Schumpeter. Là. Il y a des systèmes qui périclitent et d'autres qui émergent. Et le hasard.
D'accord, mais là je suis un petit peu frustré quand même, j'ai aussi vécu au Québec, je la connais bien cette société et on sait tous les deux, Alexandre et moi, que le Québec par rapport à la France est un endroit dans lequel il y a un peu plus de discussions, où on va plus rechercher le consensus, où on a des pratiques de consultation qui sont beaucoup plus systématiques, où les concertations entre des acteurs d'un même secteur économique sont beaucoup plus régulières qu'en France, ou en tout cas dans l'expérience qu'on en a tous les deux eue. Alors concrètement, est-ce que cette différence dans la capacité à discuter entre la France et le Québec peut expliquer cet écart dans le déploiement du partenariat patient?
Je suis d'accord avec toi, il y a une grande partie, un des facteurs qui est cette culture consensuelle, qui est relativement favorable aux philosophies de co-construction. C'est plus facile de co-construire au Québec, en tout cas, c'est plus facile d'amener un projet de co-construction au Québec, parce que ça heurte moins quand on le présente. Par contre, dans les faits, maintenant ayant fait les deux, je trouve que la co-construction se fait davantage en France. C'est plus difficile à convaincre, c'est plus difficile à amener, mais en France, il y a une des conditions à la co-construction qui est beaucoup plus présente qu'au Québec, c'est la conflictualité. Et être dans une culture qui est propice à la co-construction, c'est pas forcément une culture d'harmonie. Mener un projet de co-construction, ça ne veut pas dire qu'on s'entend tous ensemble. C'est-à-dire qu'on est capable de mettre en place les conditions dans lesquelles nos conflictualités vont pouvoir s'exprimer sainement et de manière constructive. Et c'est ce que des auteurs comme Chantal Mouffe, par exemple, en sciences politiques, appellent la démocratie ou les conflits agonistiques. Mon but, ce n'est pas de tuer l'autre, mais c'est d'être dans une dynamique d'émulation, parce qu'on sait que cette émulation créera de meilleurs résultats. Et les deux autres facteurs que j'ai pu voir au Québec, pour terminer là-dessus, Il y a quand même cette culture du pragmatisme nord-américain, surtout le pragmatisme clinique, où on dit bah, on expérimente pas à pas et on valide. Et puis, si ce n'est pas bon, on réajuste, etc. Donc, cette culture qu'on retrouve d'ailleurs dans le Lean. Alors que ce que j'ai pu voir jusqu'à présent en France, mais ça fait qu'un an que je suis revenu, il y a cette culture, il y a ces hiérarchies beaucoup plus grandes dans les savoirs. Il y a cette tendance à vouloir d'abord théoriser, conceptualiser de manière relativement... développée, exhaustive, avant même d'expérimenter pour être sûr qu'on ne va pas faire une mauvaise chose. Et ça freine ce type d'innovation. Et le dernier, bah, comme pour la France, le Québec a vécu une grande crise sanitaire un peu plus tard, par contre, 5-6 ans après, du sang contaminé également. Et de ce fait-là, ces crises sanitaires, dans les pays où elles ont émergé, ont été des facteurs de développement des pratiques de partenariat, parce qu'elles ont justement illustré l'inadéquation des moments où les professionnels de santé, si bienveillants et compétents soient-ils, agissent davantage pour le patient et ses besoins, en essayant de les deviner ou de les caractériser le mieux possible, mais à partir de leur perspective, plutôt que de travailler directement avec eux.
Et Dieu sait que c'est le moment. On vient d'en traverser une belle, de crise sanitaire, de crise épidémique. On a mis énormément de pression et donc de lumière sur notre système de santé. C'est donc le moment ou jamais de produire des nouveaux discours, de produire de l'innovation pour améliorer ce système de santé dont on a tant eu besoin ces 3 derniers mois. Et on sent bien au fond que c'est dans l'air du temps le fait que les patients prennent une place plus importante dans la construction de leur traitement et plus généralement dans l'écosystème de santé. D'ailleurs, est-ce que ce que Alexandre a lui-même qualifié de mouvement social au début de l'épisode ne participerait pas d'un phénomène plus large de renforcement des dynamiques individuelles au sein de la société ? Par exemple, je ne sais pas vous quelle est votre utilisation des réseaux sociaux. Mais s'il y a un endroit sur lequel on peut ressentir cette importance que prend l'individu, c'est bien sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur Instagram, ça fait plusieurs fois que je croise des profils de patients. C'est-à-dire que la principale caractéristique que la personne va mettre en avant pour mettre en scène la façon dont elle vit et de la façon dont elle a envie que les autres la voient, c'est justement la maladie et l'impact qu'elle a sur sa vie.
Alors d'abord, donc c'est une problématique complexe, mais qui, moi, me passionne personnellement parce qu'elle est souvent empreinte de beaucoup de moralisation et surtout, elle mobilise toujours une forme de hiérarchie des savoirs qui est exactement celle qu'on essaye de déconstruire avec le partenariat. Donc premièrement, je comprends tout à fait que ces comportements-là inquiètent les professionnels. Vincent dit souvent que la majorité des médecins à qui il parle lui disent « Tu sais, Vincent, mon enjeu aujourd'hui, surtout, c'est que j'ai peu de minutes pour rencontrer les patients. J'ai 10, 12, 15 minutes. Et puis, en fait, je passe l'essentiel de ce temps-là à déconstruire ce avec quoi ils sont venus. En fait, ils ne viennent plus juste avec des symptômes, ils viennent avec des diagnostics. Ils ont été voir sur des forums, ils ont parlé à leurs proches. Bref, ils arrivent et ils ont déjà fait ce travail-là. Mon Dieu, que ça me prend du temps. Mon Dieu, que c'est compliqué. C'est étonnant. Comment on fait pour avoir des sites validés par des professionnels qui font en sorte qu'ils viennent au moins avec de la bonne info? Alors, c'est toujours la blague qu'on a entre nous, mais concrètement, on essaye de partir de l'inverse en disant, mais quand on parle à ces professionnels de la santé en général, pas que les médecins, on dit, vous vous plaignez souvent que les patients sont trop passifs. Vous plaignez souvent que justement, il n'y en ait pas dans un partage de responsabilités, dans un partage d'actions. Des fois, vous vous dites, bah, c'est dommage, je lui demande qu'est-ce qu'il a fait depuis la dernière rencontre et puis il ne s'est rien passé. Mais imaginez le temps, là je parle aux professionnels, imaginez le temps que passe un patient. Le temps qu'il a investi pour aller chercher cette information, la trier, pour essayer de la comprendre, pour essayer de prendre soin de lui, en fait. Parce que c'est ça l'élan qu'il porte, c'est qu'il essaye de se dire, mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je peux changer dans mon quotidien? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Et donc, la première chose qu'on devrait faire quand on a un patient qui arrive ou un proche qui arrive avec ces informations-là, c'est non pas de dire, mince, enfin, ça y est, je vais perdre du temps. Et puis le langage corporel, les patients le voient tout de suite et on a l'impression qu'on gêne le médecin, qu'on lui fait perdre son temps. Alors que la première chose qu'on devrait faire, c'est capitaliser là-dessus et renforcer ça en disant, waouh, génial, vous avez le bon élan. C'est exactement sur ça qu'on veut travailler. On va juste prendre cet élan-là, en discuter ensemble, voir ce qui sort de la manière dont vous vous engagez dans cette recherche d'informations et de solutions. Puis on va le faire ensemble. Et donc, c'est à travers l'élan est bon. C'est la bonne chose pour moi. Donc, de manière intrinsèque, ce qui pousse les gens à faire ce genre de choses, je pense que ce sont les bonnes choses et c'est là-dessus qu'on veut capitaliser. Par contre, je pense qu'on surévalue beaucoup la qualité des compétences médicales. Et je dis ça parce que j'ai quand même passé 9 ans à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Donc, j'en ai côtoyé des étudiants en médecine et des médecins en formation continue. Et j'ai retrouvé, honnêtement, à peu près la même proportion de personnes là-dedans qui ne savent pas interpréter correctement des statistiques, qui ne savent pas correctement interpréter un graphique ou qui n'ont pas plus de pensée critique que la moyenne. Et encore moins des patients. qui souvent, en fait, sont des gens dont le degré de réflexivité en moyenne est quand même relativement élevé du fait qu'ils vivent des situations de vie relativement exigeantes, qui leur demandent de se remettre en question, de repenser leur rapport à... Ils vont vivre l'angoisse, leur rapport à la finitude, redéfinir la place de leurs relations amoureuses ou avec le travail, etc. Donc, c'est souvent des gens plus réflexifs. Donc, globalement, on a tendance à dichotomiser d'un côté des patients qui sont un peu amateurs, qui vont sur des sites amateurs pour trier ce qu'ils peuvent, et de l'autre côté, des professionnels qui, eux, à chaque fois, trieraient de manière extrêmement rigoureuse, compétente, l'information qu'ils ont, alors que moi, qui suis dans beaucoup de groupes de partage d'expériences de médecins en pratique, où ils reviennent et ils annoncent les cas cliniques qu'ils ont eu compliqués, pourquoi ils ont des difficultés. Ce qui ressort le plus souvent comme enjeu, c'est le sentiment d'imposteur. C'est à des médecins qui disent, mais en fait, moi, souvent, des fois, le patient me parle, je ne sais pas ce qu'il a, mais j'ai l'impression qu'il veut une réponse ou un traitement, donc je lui donne quand même quelque chose.
Bon, alors ça, forcément, j'adore. Quand on en arrive à dire que non seulement il est souhaitable que les patients s'approprient leur maladie à tel point qu'ils puissent la documenter, donner des conseils à d'autres patients et se faire leur propre rapport à leur traitement et le diffuser. Mais vous allez voir que Alexandre va un cran plus loin en affirmant même que les médecins ont finalement besoin que les patients deviennent plus spécialistes de leur maladie qu'eux-mêmes.
Pour des médecins de famille, vu la diversité de patients qu'ils ont, ils ne peuvent pas être des spécialistes de l'hémophilie, du diabète, de l'insuffisance rénale, du trouble bipolaire. Ils ont donc besoin que ces patients que ça concerne directement développent cette expertise. Ils ont besoin que ces patients s'empuissantisent, s'encapacitent, développent leurs capacités et leurs connaissances sur leur propre pathologie et leur expérience de vie, comment ça la modifie. Parce que grâce à ça, eux, en tant que médecins ou professionnels de santé en général, vont pouvoir se concentrer sur leurs propres compétences, qui sont des compétences systémiques, qui sont des compétences analytiques de soins et d'accompagnement. Et que de ce fait-là, on aura un largement meilleur partenariat qu'un médecin qui va essayer de faire semblant de savoir ou d'être compétent sur des maladies qui touchent 0,1% de sa patientèle et dans lequel il peut donc pas engager le temps et les ressources qu'il faudrait pour être aussi expert que ça.
Bon, alors forcément, ici, on parle d'un cadre idéal dans lequel le patient est véritablement devenu un expert de sa maladie, mais on ne parle pas forcément des cas où des patients vont publier des bêtises ou faire une généralité de leur cas personnel en publiant des conseils qui pourraient avoir un impact négatif sur d'autres patients. Mais en tout cas, ce sujet peut être un peu anecdotique, des patients qui vont se mettre en avant par rapport à leur maladie, peut faire une introduction pour un sujet un peu plus déterminant. Avant de terminer cet entretien, j'aimerais en effet discuter avec Alexandre d'un dernier sujet, le sujet des coopératives de données. Qu'est-ce que ça veut dire ? On sait que dans l'économie numérique, les données sont la principale richesse. Et pour s'assurer que l'exploitation des données médicales profite avant tout aux patients, certains groupes de patients se sont rassemblés en coopérative pour être capables de revendre leurs données médicales. Deux objectifs à ça. Le premier est de faire bénéficier leurs données aux laboratoires et aux professionnels de la médecine dans lesquels ils vont avoir véritablement confiance. Donc c'est garder le pouvoir des patients pour favoriser la recherche dans le sens qui les importe. Le deuxième impact est bien entendu économique, puisque ces données valent énormément d'argent. Et ils souhaitent donc s'assurer que si des bénéfices sont faits grâce à la revente de leurs données, eh bien ils puissent en tirer avantage également. On peut par exemple citer la plateforme Savvy.coop, une plateforme américaine qui vient justement de revendiquer une importante levée de fonds pour développer leurs activités commerciales. Alors, est-ce qu'Alexandre y voit une convergence avec le partenariat patient ?
Alors, oui, tout à fait. Dans les deux cas, c'est une volonté de se réapproprier une partie des questionnements et donc des solutions qui en découlent, qui les concernent, pour éviter que justement, ça soit toujours les intérêts d'autres personnes qui dirigent et décident de ce genre de solution. Et encore une fois, juste avant de développer, je veux dire que quand je parle à chaque fois des intérêts, ce n'est pas dans le côté critique, dichotomique, simple, de dire il y a les intérêts des plus forts et les intérêts des plus faibles, mais dire que de manière générale, ce que j'ai vu même avec les personnes que je disais tout à l'heure, beaucoup dans l'innovation sociale, dans l'entrepreneuriat social, qui sont bien intentionnées, on n'arrive pas à penser en dehors de son prisme. C'est très compliqué de réussir à se défaire pleinement de ses intérêts. Donc, on projette toujours un peu ce qui nous rend heureux, notre conception de la vie bonne, du soin qui est désirable, à travers ce qu'on pense et ce qu'on essaye de faire. Donc, quand je dis ça, cette notion d'intérêt, c'est vraiment au sens où il faut donc réunir autour de la table des personnes pas uniquement bien intentionnées, mais qui représentent la diversité des intérêts qui sont présents. Donc, la coopérative est déjà un modèle qui favorise cette mutualisation des intérêts et donc cette co-construction de solutions qui vont correspondre aux besoins davantage de chacun. Alors, premièrement, c'est une très bonne nouvelle, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à noter, c'est qu'on le valorise économiquement. C'est-à-dire que c'est encore une fois, malheureusement, le milieu privé qui va nous le dire avant, c'est de dire, si le milieu privé s'intéresse à ça, investit ça, et on voit actuellement l'argent qui est généré sur cette plateforme, ça veut dire que ça a une valeur. C'est-à-dire que justement, déjà, ça a une valeur monétaire. Et comme on est dans une culture où on a l'impression que la valeur, des fois, se restreint à la valeur monétaire, on peut donc dire à plusieurs de nos dirigeants ou des personnes à qui on essaye d'expliquer l'intérêt du partenariat patient, de dire, regardez, notamment les données qui en ressortent, ce qui est produit à travers cet acte de soins, ce qui va produire par leur activité de soins, ça a de la valeur. Regardez, ça intéresse le marché. Le deuxième point, par contre, que j'aide un peu plus critique par rapport à ces initiatives, c'est que, pour moi, elles sont pertinentes si elles restent un premier point d'appui ou pied d'appui, je vais dire, pour de l'action collective. C'est-à-dire que c'est intéressant que les patients individuellement puissent faire de l'argent à partir de ces données-là, c'est-à-dire qu'au moins ce ne soit pas d'autres qui fassent de l'argent à partir de leurs propres données, mais ça reste que ça revient à l'échelle très individuelle de leur bien-être à eux et de leur autonomie financière, etc. Mais par contre, ce qu'on essaie de proposer avec le partenariat, c'est une dimension plus politique au sens large, qui est de dire ces données-là, elles pourraient aussi avoir un intérêt beaucoup plus large qu'individuel et permettre l'amélioration continue de la qualité, de la sécurité, de la pertinence des soins. Et que de ce fait-là, ça serait intéressant de passer à la marge du dessus, qui est de dire comment on peut prendre ces données-là et comment on peut, en tant que patient, les donner, les mutualiser, les mettre à disposition d'une structure collective qui a pour but l'amélioration des soins. Et que de ce fait-là, est-ce que c'est une plateforme comme Savvy, est-ce que ça pourrait être le premier pas créant les conditions dans lesquelles les patients ne sont pas uniquement en situation de précarité, mais peuvent commencer à se refaire une santé financière et donc en général une santé en général aussi, et de ce fait-là être en capacité de mener des combats énergivores et chronophages qui sont ceux de l'action collective pour améliorer les soins.
J'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter de ces sujets de coopérative de données, parce que ça soulève plein de questions. Est-ce qu'il est légitime qu'on puisse revendre ces données de santé pour se refaire une santé financière? Est-ce qu'il est légitime qu'on puisse revendre ces données tout court? Certains pensent que les données devraient avoir le même statut que le sang. Voilà, si les données sont utiles, il faudrait pouvoir les donner mais pas les vendre. Ça, c'est des sujets de débat sur lesquels moi-même, je n'ai pas encore les idées complètement arrêtées. Un grand merci à Alexandre Berkès pour le temps qu'il a consacré à cet entretien. Si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet du partenariat patient, je vous invite, Alexandre vous invite à lire les travaux d'Olivia Gross, c'est une chercheuse française sur le sujet. Tout comme les travaux de Luigi Flora, qui a notamment permis d'aboutir à un référentiel de compétences pour arriver à cartographier un petit peu ces compétences qu'ont les patients atteints de maladies chroniques. Et enfin, n'hésitez pas à parcourir YouTube pour y retrouver les interventions de Vincent Dumez, qui est la personne qui a été citée par Alexandre tout au long de cet épisode et qui personnifie ce mouvement social du partenariat patient au Québec. J'espère que ce format un peu particulier d'entretien vous aura plu, qui vous aura permis d'aller jusqu'au bout des informations qu'on avait à vous transmettre aujourd'hui. En tout cas, moi j'y ai pris beaucoup de plaisir. J'espère vous retrouver très vite avec le reste de l'équipe de podcast.s. Alors à bientôt. Thank you.